Bonjour à tous, mardi 20 mars 2018, les voix de service, c'est parti pour une heure en notre compagnie, car je ne suis pas seul, en compagnie de Jean-Charles Algan.
Bonjour
Jean-Charles.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et toi Louis?
Mais très bien également. Qu'avons-nous au programme, au menu aujourd'hui?
Alors, fantasme aujourd'hui, mais à propos de voyage, et peut-être que je vais le faire en deux parties. Ensuite, jeûner pour améliorer votre santé. Et ensuite, je vais vous parler de l'eau d'érable, qui est une boisson très pleine de vertus.
Ah, excellent. De mon côté, nous avons des brèves insolites, comme toujours. Nous parlerons, par exemple, de comment trouver de l'or. Je vous donne une technique facile pour en trouver beaucoup d'un coup. Également, pourquoi pas, eh bien, des nouvelles de M. Donald Trump, qui, comme toujours, fournit ma chronique. J'en suis ravi. Et puis, quelques petits conseils si vous voulez chercher du miel dans la forêt amazonienne. C'est dans quelques instants, dans les voies de service.
Le fantasme du low cost. Stéphanie Morin de La Presse. C'est le rêve de tout globe-trotteur, parcourir le monde en avion pour une poignée de dollars. Certains y parviennent, avec un peu de connaissances et quelques sacrifices. Le voyage peut se faire pour seulement 1 300 $. Mais au Canada, les vols à prix dérisoire se font encore rares. Or, l'arrivée de quelques transporteurs à faible coût laisse croire à une baisse de prix. Ou n'est-ce qu'une illusion ? Fou des vols à faible coût. Alors, prendre 12 vols différents et visiter 11 destinations européennes en 13 jours de voyage, c'est le marathon un peu fou dans lequel se sont récemment lancés deux Québécois, Andrew Damour et Kevin Gagnon. Prix total de leur billet d'avion, toute taxe incluse au départ de Montréal, 450 $ par personne. Un tour de force, pas pour ces deux passionnés de voyage qui recensent sur leur site FlyTrippers les meilleures aubaines du jour et parfois de l'heure sur les billets d'avion. Ils n'ont utilisé pour se déplacer que des transporteurs aériens à faible coût, les fameux low cost. Si j'exclus le billet entre Montréal et Stockholm qui a coûté 250 $, on a payé en moyenne 25 $ par billet, explique Andrew Damour. Ce voyage a confirmé à leurs yeux que les vols à faible coût constituent le meilleur moyen de voyager pour pas cher, à certaines conditions notamment celle d'être flexible dans son horaire, voire son itinéraire. On a décidé de voyager, on a décidé de partir en voyant un super solde de billets Montréal-Stockholm chez Wow pour janvier. On a sauté sur l'occasion car ces offres ne durent pas longtemps, dit l'ancien conseiller stratégique qui a tout abandonné professionnellement 100 ans pour fonder le site FlyTrippers en janvier 2017. L'important est de savoir dans quoi on s'embarque pour ne pas être déçu, lance Kevin Gagnon. Et la première chose à savoir, c'est que le prix de base ne comprend vraiment aucun service. Il faut faire quelques sacrifices pour que ça vaille la peine. Il faut voyager léger, ajoute Andrew Damour. Pour leur séjour européen, Kevin Gagnon et lui ont pris chacun en cabine un sac à dos de 20 litres comprenant des vêtements pour une semaine. Mais ce n'est pas dans ton ADN, tu peux payer les frais de voyage. Et pour la réservation du siège, lorsqu'on veut être assis à côté de son compagnon de voyage, le seul moyen d'avoir une garantie, c'est de payer. Autre information essentielle à considérer en achetant deux segments de vol séparément, le voyageur s'expose à perdre son second billet en cas de retard du premier transporteur. Et alors, il faut consulter le site de flytrippers.com pour avoir plus d'informations. Et je vais vous donner un titre d'exemple, le prix d'un tour du monde qu'ils ont fait pour 1 292 $. Et ils ont fait l'exercice aussi pour le même trajet avec un transporteur ordinaire, donc avec des transporteurs différents ordinaires, pour faire une comparaison. Alors, entre Montréal, retour de Montréal à Montréal en passant par Londres, Milan, Athènes, Singapour, Kuala Lumpur, Honolulu et Montréal, en low cost, 1 292 $. Et en transporteur ordinaire, 2 989 $, pour avoir une idée. Je vais vous revenir tout à l'heure pour voir comment ça se passe au Canada avec ces transporteurs.
Et la vraie question est, ont-ils mis moins de... mettrait-on moins de 80 jours pour un tel voyage? Probablement.
Oui, en l'occurrence.
Je vous annonçais en introduction l'Amazonie, mille excuses, ma langue a fourché, ce n'est pas en Amazonie que nous partons chasser le miel, mais en Malaisie. Par une nuit sans lune, dans les profondeurs de la jungle en Malaisie, deux hommes perchés en haut d'un arbre agitent une torche brûlante pour tenter d'éloigner des milliers d'abeilles de leur essaim, afin de ramasser le précieux nectar à leurs risques et périls. Ces chasseurs de miel font partie d'un groupe de villageois qui, chaque année, se rendent en expédition dans des lieux isolés de la forêt tropicale à la recherche de la production des abeilles sur des toits langues, une variété d'arbres géants dans la canopée. Ce miel est riche en éléments nutritifs, on peut s'en servir comme médicament contre la toux, par exemple, raconte Abdul Samad Ahmad, 60 ans, qui participe depuis plus de 20 ans à ces aventures risquées. À l'instar du miel de Manuka en Nouvelle-Zélande, également prisé pour ses propriétés médicinales, le miel malaisien de toit langue se vend cher. Environ 150 ringgit, soit environ 48 $ canadiens, le kilo. Une fortune pour des villageois pauvres de ce pays d'Asie du Sud-Est. Mais cette pratique ancienne de récolte de miel est menacée à la fois par la déforestation et la diminution drastique du nombre d'abeilles, ainsi que le manque d'intérêt parmi les jeunes générations. Pour ces chasseurs de miel, rien de tel que de grimper au sommet d'arbres mesurant jusqu'à 75 mètres de haut et de recueillir ce miel unique produit par des abeilles se nourrissant des fleurs exotiques de la jungle. La saison de collecte s'étend de février à avril dans la forêt d'Ullamuda dans le nord, quand des colonies d'abeilles arrivent d'autres régions d'Asie pour construire des ruches naturelles sur des branches de toit langue. Lors d'une récente expédition, Abdul Samad Ahmad et six autres chasseurs de miel se sont enfoncés dans la forêt tropicale avant de traverser un lac à bord de deux petits bateaux pour atteindre un toit langue sur lequel ils ont déjà récolté du miel au moins 15 fois en 20 ans. Dans la journée, ils ont cloué des bâtons en forme d'escalier sur le tronc pour escalader l'arbre, puis assemblé des racines pour créer une torche brûlante. Quand la nuit arrive, ils enfilent plusieurs paires de chaussettes et t-shirts, ainsi que d'épaisses vestes pour se protéger des insectes avant de grimper sur un arbre géant. Équipés d'une lampe frontale pour s'éclairer dans l'obscurité totale, ils escaladent l'arbre et tapent avec leur torche brûlante contre le tronc peu avant d'atteindre l'essaim. Soudain, des milliers d'abeilles s'envolent, attirées par la lumière des étincelles qui tombent vers le sol, offrant aux chasseurs un rare moment pour couper des morceaux d'alvéoles contenant le miel et remplir leur seau. Ils vont d'arbre en arbre pour récolter le plus de nectar possible et se font piquer de nombreuses fois, mais continuent imperturbablement de collecter le miel. Le travail dure toute la nuit. À l'aube, ils reviennent avec 43 kilos de miel et des douleurs de piqûres auxquelles ils se disent habitués. Si vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, les abeilles vous piquent jusqu'à ce que votre corps soit enflé, raconte l'un des chasseurs, Zaini Abdul Hamid. Potentiellement mortel ? Ni lui ni ses amis n'ont connaissance de décès liés à cette collecte du miel, dit-il. Cette pratique ancienne et dangereuse n'intéresse plus les jeunes générations dans les villages. Aucun de ceux qui ont participé aux récentes expéditions n'a moins de 45 ans, et certains ont même la soixantaine. Les plus jeunes préfèrent jouer avec leurs gadgets, nous leur demandons de venir, mais ça ne les intéresse pas, raconte un chasseur de miel, Mohamed Kairi Mohamed Arsa, 50 ans. La production de miel est de toute façon menacée par l'abattage d'arbres et la réduction des forêts, pour faire de la place à des plantations et des habitations, relève Magdir Mardan, un spécialiste des abeilles à l'université Putrajaya. Le nombre d'abeilles dans la forêt d'Ullamuda a diminué ces dernières années. Monsieur Mardan raconte avoir compté 128 ruches naturelles sur un seul arbre lors d'une expédition dans cette forêt en 1983. Il n'en compte aujourd'hui que 40 au maximum. Des experts tirent depuis longtemps la sonnette d'alarme sur le déclin des colonies d'abeilles à travers le monde, surtout en raison des pesticides qui déciment les populations de pollinisateurs. Enfoncé dans la jungle, M. Arshad et des amis chasseurs de miel se désolent, il y a beaucoup moins de fleurs qu'auparavant. Les endroits où les abeilles cherchent de la nourriture disparaissent, constate M. Arshad, 50 ans. S'il n'y a plus assez de fleurs, les abeilles ne viendront plus.
Je vous reviens avec le fantasme du low cost. Est-ce que la révolution du low cost se rendra au Canada? Le Canada tarde à entrer dans la danse. Les transporteurs traditionnels utilisent une plaque tournante Atlanta pour Delta, Amsterdam pour KLM, où convergent tous leurs vols. Les transporteurs low cost font plutôt des liaisons directes entre deux villes, Seattle et San Francisco par exemple. Ils pratiquent aussi une philosophie de réduction de coûts et n'offrant aucun ajout gratuit, seulement le transport d'un point à l'autre. Comment expliquer le bas prix de certains billets, surtout en Europe? Comme il n'y a pas de correspondance avec d'autres vols, les avions ne restent pas au sol à attendre. Ils passent un maximum de temps dans les airs. Les flottes ne sont composées que d'un seul modèle d'avion, ce qui simplifie la formation des pilotes. Et les employés sont souvent jeunes et moins bien rémunérés. Les avions sont aussi configurés pour contenir un maximum de sièges. Plusieurs de ces transporteurs choisissent d'atterrir dans des aéroports secondaires, ce qui évite de longs délais et des frais aéroportuaires plus élevés. Quelle est la situation du Canada et au Québec? Pour l'instant, seule une poignée de transporteurs à faible coût atterrissent sur les tarmacs canadiens. À l'aéroport Montréal-Trudeau, ils ne sont que trois. Wow, qui fait le lien entre Montréal et l'Islande. Interjet, qui propose des vols vers Cancun et Mexico. Et à partir de juillet 2018, Level, qui offrira un vol saisonnier sans escale entre Montréal et Paris-Orly. Du démarchage est fait pour attirer d'autres low-cost à Montréal à suivre. En ce qui concerne les vols intérieurs, aucun transporteur à faible coût ne dessert le Québec pour l'instant. Enverrons-nous davantage au pays? Les frais aéroportuaires, plus élevés, le niveau de taxation, la quantité d'aéroports secondaires et la grandeur du territoire canadien sont autant d'écueils qui freinent l'implantation des transporteurs low-cost du pays, mais la faible densité de population fait le plus mal. Les transporteurs à faible coût ne seront jamais mainstream au Canada comme ils le sont en Europe, estime Moscou Côté. Moscou Côté est le directeur général de l'agence de voyage Constellation. La population de la communauté européenne est presque 15 fois plus élevée que celle du Canada et les gens ont 4 fois plus de vacances. Faut-il faire son deuil du low-cost à Montréal? L'idéal serait d'attirer une compagnie américaine à Montréal pour offrir des vols vers les États-Unis. Et pour conclure, en chiffres, 3,7 milliards de passagers aériens dans le monde en 2016 et 30% c'est le nombre de passagers qui ont opté pour un transporteur à faible coût en 2016 aussi.
M'envoler, t'embrasser. Charlotte Gainsbourg qui nous chantait « Rest ».
La ruée vers l'or. Ça a donné lieu à beaucoup de films, de musique. Certains creusent, certains fouillent dans les rivières, dans les fleuves pour en trouver. Alors que c'est parfois beaucoup plus facile. Je vous donne une technique sans aucun problème. Il suffit de se pencher pour le ramasser. Un avion russe perd son or au décollage. Un Antonov russe qui transportait plus de 9 tonnes d'or et d'argent a éparpillé des lingots sur la piste de décollage et à proximité de l'aéroport après un problème technique. Sur la piste de l'aéroport de Yakutsk en Sibérie, les petits paquets éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Un Antonov AN-12 russe chargé de lingots d'or emballés pour le transport a eu un problème technique au décollage et a perdu une partie de son précieux chargement jeudi 15 mars. Au total, plus de 3 tonnes d'or tout de même. Alors que l'appareil décollait de l'aéroport sibérien après une escale pour se réalimenter en carburant, la porte de la soute de l'avion s'est ouverte et près de 200 barres provenant de la mine d'or de Koupol, dans la région reculée de Tchouktokta, s'en sont échappées. Le site du quotidien britannique The Guardian, qui rapporte les déclarations du comité d'investigation russe, ajoute que le chargement était composé de 9,3 tonnes de lingots de minerais concentrés. Selon les experts interrogés par l'agence publique RIA Novosti, la cargaison de l'avion peut être estimée à plus de 122 millions de dollars au total. Alors que l'appareil prenait de l'altitude, la porte de la soute a été endommagée par le déplacement de la cargaison, dispersant une partie du chargement sur la piste de décollage, a ajouté le comité. Le journal russe The Siberian Times précise que des lingots ont été dispersés jusqu'à 26 km de l'aéroport. L'avion a ensuite été forcé d'atterrir à proximité et la police a bouclé un large périmètre pour éviter que les curieux s'emparent du chargement disséminé. 172 lingots ont été recueillis, pesant environ 3,4 tonnes, a déclaré le ministre de l'Intérieur local à l'agence russe TASS. Seule une partie du chargement s'est échappée de l'appareil, en tout il y avait 9 tonnes à l'intérieur, a-t-il détaillé. Le Guardian ajoute qu'un porte-parole du conglomérat canadien Kinross Gold, qui est propriétaire de la mine de Koupol, a déclaré que « tout le chargement avait été récupéré, il n'y a aucune perte », et a précisé que les lingots était composé d'un alliage d'or et de cuivre. Vendredi, le Siberian Times rapportait une véritable ruée vers l'or malgré l'annonce officielle que tout le chargement avait été retrouvé et des habitants étaient encore à la recherche d'or à proximité du lieu de l'accident. Le journal local cite des témoins étonnés par le dispositif policier. « Je crois que tous les policiers de Yakutsk étaient présents sur place. Il y avait des bouchons énormes, je n'avais jamais vu ça », raconte notamment l'un d'eux. C'est donc un peu trop tard pour aller ramasser celui-là, mais si vous trouvez des vols low cost pour partir en Russie, peut-être aurez-vous simplement à vous pencher sur le tarmac pour devenir millionnaire.
Jeûner pour améliorer votre santé, un texte de Bushra Watik de Découverte. Le jeûne est une pratique ancrée dans de nombreuses religions depuis des millénaires. Il est souvent perçu comme un moyen de purifier le corps et l'esprit. Mais qu'en est-il vraiment de ses bienfaits sur la santé? Depuis quelques années, la science se penche sur les vertus de cette pratique. De plus en plus de chercheurs constatent pourtant que la privation de nourriture de manière contrôlée peut être bénéfique. Selon le biochimiste Walter Lango, notre corps est fait pour jeûner durant de longues périodes. Notre corps peut survivre durant des semaines sans nourriture. En temps normal, il utilise ses réserves de glucides, c'est-à-dire des sucres, comme principale source d'énergie. Au-delà de 24 heures, ces réserves sont épuisées et ce sont alors les réserves de lipides, c'est-à-dire de graisse, qui détiennent la principale source de carburant. L'approche populaire pour perdre du poids consiste à réduire sa consommation quotidienne de calories et à faire plus d'exercices. Cependant, cette méthode a des limites, explique le cardiologue Martin Junot. Quand vous mangez moins, votre métabolisme baisse. Notre métabolisme de base, c'est ce qui fait qu'on brûle la majorité de nos calories. S'il baisse, c'est difficile de perdre du poids, souligne-t-il. Le jeûne a cependant l'effet contraire. Quand vous jeûnez complètement, le métabolisme augmente. Donc, c'est ça la grosse différence, ajoute le cardiologue. Le jeûne est très efficace pour baisser le niveau d'insuline, explique-t-il. Ce qui est intéressant pour ce que l'on appelle la résistance à l'insuline, qui est à la base de beaucoup de problèmes métaboliques, dont le syndrome métabolique, l'obésité et le diabète. Certains adeptes du jeûne le pratiquent durant plusieurs jours consécutifs en ne buvant que de l'eau. Cependant, un autre type de jeûne, dit intermittent, gagne aussi en popularité. On alterne des journées d'alimentation normale avec des journées très très réduites en calories ou de jeûne complet. Selon Walter Lango, le jeûne serait une des clés pour vivre plus longtemps en santé. La privation de nourriture amène les cellules à se régénérer. Le jeûne strict, où l'on ne boit que de l'eau, est cependant très difficile à suivre et il comporte des risques pour la santé. C'est pour éviter ces effets secondaires que Walter Lango a développé une approche qu'il appelle « fast mimicking diet » ou « diète imitant le jeûne ». Ce plan alimentaire faible en calories a été conçu pour plonger le corps dans un état physiologique semblable au jeûne, tout en lui fournissant les nutriments essentiels. Nous avons développé une diète qui imite le jeûne. Elle contient 66 ingrédients différents dont chacun a été développé pour faire croire au corps qu'il jeûne, alors qu'en réalité, vous mangez. Une centaine de participants qui ont suivi cette diète au bout de 3 mois, avaient perdu en moyenne 3 kilos, réduit leur taux de cholestérol et leur pression artérielle et amélioré leur glycémie. Cette diète a été commercialisée sous le nom de Prolon, et aux États-Unis, de nombreux médecins le recommandent à leurs patients. À travers ses recherches, Walter Lango a démontré que la diète imitant le jeûne peut aider à mieux résister aux effets secondaires de la chimiothérapie. Le jeûne rend aussi les cellules cancéreuses plus vulnérables à la chimiothérapie. Et là, on va parler de la diète cétogène, une solution de rechange au jeûne. Le jeûne a aussi un effet sur le cerveau. Lorsqu'il est privé de nourriture, notre corps produit des molécules appelées cétones. À partir de ses réserves de lipides, les cétones deviennent alors la principale source d'énergie du corps en l'absence de glucose. En raison de l'apport en cétone du cerveau, le jeûne a pour effet de faire cesser les convulsions chez les personnes épileptiques, un phénomène qui était déjà observé dans l'Antiquité. Cette diète très riche en lipides et très faible en glucides pousse le corps à produire des cétones. Au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal, la neuropédiatre Anne Lorty prescrit cette diète à ses patients épileptiques lorsque les médicaments ne font pas effet. En plus de réduire les convulsions chez 60% des patients, la diète cétogène améliore les facultés cognitives de certains d'entre eux. Et on peut aussi lutter contre l'Alzheimer. Avec l'âge, le cerveau perd graduellement sa capacité à utiliser le glucose comme source d'énergie, ce qui peut accélérer la progression de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Toutefois, la capacité du cerveau à utiliser les cétones comme source d'énergie demeure intacte. Le chercheur a mené une étude sur les facultés cognitives de certaines personnes âgées ne souffrant pas encore d'Alzheimer. Au bout de 6 mois, le chercheur a constaté des progrès au niveau des facultés cognitives des participants. Les cétones peuvent avoir un effet bénéfique dans le traitement de la maladie de Parkinson ou encore pour aider au rétablissement après un traumatisme crânien, ajoute Stephen Cunnan.
Il nous reste un petit peu de temps pour quelques brèves avant la pause. Dans la catégorie des questions existentielles auxquelles je réponds, voici une nouvelle. Pourquoi éternuer les yeux ouverts est-il impossible ? Fermer les yeux lorsqu'on éternue serait un réflexe incontrôlable, similaire au réflexe rotulien, par lequel le bas de la jambe se soulève lorsqu'on frappe le tendon du genou situé sous la rotule. Fermer les yeux lorsqu'on éternue n'aurait pas d'utilité spécifique, contrairement à la légende urbaine selon laquelle ça les empêcherait de sortir du visage. Par ailleurs, saviez-vous qu'il est impossible d'éternuer durant le sommeil ? Et saviez-vous que le vent qui sort d'une bouche qui éternue peut atteindre 160 km/h ? Voilà, couvrez-vous la bouche. On passe donc à la pause, une pause musicale, mais ne bougez pas, nous sommes de retour juste après avec Jean-Charles Algan pour encore plus de nouvelles et d'articles. A tout de suite.
Before it was lit, you found a lovely bad trip and you ruined us. Oh, you wrecked us. Too bad for the kids downstairs. The constant bad luck. The place by the window where we used to. Your vegan trend, your philosophy lines. You're not a friend, not this time. We're still holding on. We both know you're wrong, but your face says all good. You've always been such a runner. Thought you'd leave me sooner, but you're still down here with the girls and the kids and the poor and the ill and with me, babe. With the girls and the kids and the poor and the ill and with me, babe. Too bad for the kids downstairs. The constant bad luck. The place by the window where we stood. Your vegan trend, your philosophy lines. You're not a friend, not the kids downstairs. The place by the window where you pull friend. Too bad for the kids.
Charlotte Cardin qui nous chantait The Kids.
Je vous parlais avant la pause de la technique pour trouver de l'or en Russie et je sens que je ne vous ai pas totalement convaincu. C'est vrai, la Russie, c'est loin. Et puis si toute la cargaison a déjà été retrouvée, quel est l'intérêt, me direz-vous ? Eh bien, je suis bon prince et je vous donne un autre plan pour trouver de l'or. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus proche, c'est aux États-Unis et ça n'a pas encore été retrouvé. Le FBI est sur la piste d'un trésor perdu durant la guerre de sécession. Une légende vieille de 155 ans au sujet de lingots d'or perdus au temps de la guerre de sécession semble avoir retenu l'attention du FBI. Des douzaines d'agents du FBI, accompagnés de représentants de l'État de Pennsylvanie et de membres d'un groupe de chercheurs de trésors, ont effectué une randonnée cette semaine afin de se rendre à un endroit reculé où, selon la tradition locale, une cargaison d'or datant de la guerre civile américaine aurait été perdue ou cachée durant la bataille de Gettysburg en 1863. Le groupe Finders Keepers affirme depuis longtemps avoir découvert le lieu où les lingots auraient été enfouis dans la forêt nationale de Dance Run, située à environ 215 km au nord-est de Pittsburgh, mais soutient que l'État ne lui a pas donné la permission de creuser. Le FBI a refusé de révéler pourquoi il s'était rendu sur le site mardi, se bornant à dire qu'il se livrait à des activités autorisées par un tribunal. Le propriétaire de Finders Keepers, Denis Parada, a pour sa part indiqué que le FBI lui avait ordonné de ne pas commenter l'affaire. Les historiens doutent fort qu'une cargaison d'or à destination de Philadelphie, où la monnaie américaine était frappée, ait effectivement été perdue en cours de route. Selon la légende, la cargaison compterait 26 ou 52 lingots d'or pesant chacun 23 kilos, ce qui signifie qu'elle vaudrait entre 27 et 55 millions en dollars américains d'aujourd'hui.
Si l'or est pur, l'eau d'érable n'en l'est pas moins, une boisson pleine de vertus qui gagne en popularité. Publiée samedi. Alors, l'engouement pour l'eau d'érable est en plein essor en raison de son goût unique et de ses vertus pour la santé. Et ce produit se taille maintenant une place importante sur les tablettes des marchés d'alimentation. L'eau d'érable sert surtout d'ingrédient pour produire du sirop d'érable. L'industrie acéricole du Québec a toutefois investi massivement au début des années 2000 pour en faire un produit à part entière. En tant que producteur, on boit de l'eau d'érable pendant la saison des sucres. Certains en font congeler pour aromatiser les cafés durant l'année, fait valoir le président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, le FPAQ, Serge Beaulieu. Or, les producteurs acéricoles ont constaté que la conservation de l'eau d'érable représentait un défi puisque les bactéries la détériorent facilement. On a débuté avec des recherches scientifiques pour valider la composition du produit et en 2012, nous sommes entrés en érablière pour faire les tests de production, explique Nathalie Langlois, directrice à la promotion, à l'innovation et au développement des marchés de la FPAQ. Après plusieurs années de recherche et de développement, l'industrie acéricole a finalement trouvé le moyen de stériliser le produit. L'eau d'érable gagne de plus en plus d'adeptes, notamment en raison de ses vertus pour la santé. Ses 46 vitamines et minéraux, vous avez même des antioxydants comme ceux qu'on trouve dans le fruit, indique le président fondateur de l'entreprise AntiPlus, Thierry Houillon. Les consommateurs peuvent maintenant se procurer de l'eau d'érable dans de nombreux marchés d'alimentation. La demande est aussi croissante ailleurs dans le monde. Là où c'est le plus en demande, il y a la France. Après, on a la Belgique, le Japon, l'Australie et l'Allemagne. Drôlement, c'est quelque chose qui est connu même si ça vient d'ici, souligne la présidente d'Aliments Si Bon, Amélie Léger. Actuellement, seulement 10 des 14 000 producteurs acéricoles sont certifiés pour vendre de l'eau d'érable. L'industrie affirme que le potentiel de ce produit est presque aussi grand que celui du sirop d'érable. Voilà, c'était donc ce qui mettait un terme à l'eau d'érable, une boisson pleine de vertus qui gagne en popularité.
Parlons à présent d'un sujet récurrent de Monsieur Donald Trump qui décidément me fournit beaucoup d'articles et de nouvelles pour ma catégorie insolite. Mais cette fois-ci, ce n'est pas aux États-Unis et ce n'est pas d'un monsieur à tête blonde dont je vais vous parler, mais d'un petit garçon en Afghanistan. Un bébé nommé Donald Trump fait polémique en Afghanistan. Kaboul. Quand Donald Trump agrippe son déambulateur pour bébé, rose et blanc, et se met à arpenter le modeste logis de ses parents à Kaboul, il ignore le scandale que provoque son nom infidèle en Afghanistan, pays musulman conservateur. Le petit garçon aux joues roses âgé d'un an et demi, nommé en hommage au milliardaire américain, est au centre d'une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis qu'une photo de ses papiers d'identité afghan y a été publiée. Prénom Donald, nom Trump. Son père, Sayed Assadullah Pouya, un admirateur assumé de l'homme d'affaires américain devenu président des États-Unis, et son épouse sont depuis submergés de commentaires vulgaires et insultants quant au choix du nom de leur troisième enfant, dit-il. Certains usagers de Facebook sont allés jusqu'à leur envoyer des menaces de mort pour avoir donné un nom infidèle, tandis que d'autres les accusent de mettre en danger la vie de leur fils. Des internautes accusent même le couple d'avoir choisi ce patronyme dans l'espoir d'obtenir l'asile aux États-Unis, ce que dément vivement le père, un enseignant de 28 ans. « Je ne savais pas au début que des Afghans se montreraient aussi sensibles envers un nom, je ne m'attendais pas à cela », déclare-t-il à l'AFP, tandis que le petit Donald s'amuse avec une application musicale sur le téléphone paternel. Selon M. Sayed, ce sont les fonctionnaires de l'état civil qui ont publié la photo de ses papiers, initiant une polémique qui l'a contraint à fermer son compte Facebook. Même les voisins des Sayed, dans le quartier chiite où ils résident à Kaboul, ont proféré des menaces à l'égard de la famille, leur intimant de s'en aller. « Quand je quitte la maison, je me sens intimidé », avoue M. Sayed, agenouillé sur des coussins vêtus d'un costume sombre. Donald a vu le jour dans la province afghane de Daikundi, quelques mois avant l'élection qui a propulsé son célèbre homonyme au pouvoir en Amérique. À l'époque, les Sayed vivaient avec leurs parents et grands-parents dans la ferme familiale où ils cultivaient amandes, blé et maïs. Monsieur Sayed, selon lui le seul de sa famille à avoir fréquenté l'université, explique avoir été inspiré après avoir lu les traductions en persan de plusieurs des livres du milliardaire américain, dont « Comment devenir riche », emprunté dans une bibliothèque locale. « J'ai fait beaucoup de recherches sur lui et cela m'a motivé pour choisir son nom pour mon fils », souligne-t-il. Le jeune homme dit espérer que son enfant sera aussi couronné de succès que le président Donald Trump, et même s'il est encore trop jeune pour comprendre la portée de son nom, son père jure qu'il est heureux qu'on lui montre des photos de son illustre aîné. Mais M. Sayed et son épouse ont payé cher leur choix. Les grands-parents, d'abord amusés, se sont mis en colère lorsqu'ils ont compris que le couple entendait réellement appeler leur fils ainsi. Le couple a depuis coupé les ponts avec eux et s'est installé dans la capitale. Leur austère mode de vie pourrait difficilement être plus diamétralement opposé de celui du président, qui partage son temps entre la Maison Blanche et sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. Les Sayed s'entassent à cinq dans une seule pièce donnant sur une petite cour avec les commodités à l'extérieur. Le loyer est de 2000 afghanis, soit environ 30 dollars canadiens par mois. Le porche en métal s'ouvre sur un entrelac d'étroites routes de terre bordées de maisons en briques avec des égouts à ciel ouvert. Quelques rues plus loin, des toxicomanes occupent un pan de gazon sur un carrefour animé, dormant et s'injectant de la drogue au vu de tous. Le couple a deux autres enfants, Fatima, 9 ans, et Karim, 8 ans, sur lesquels l'épouse de M. Sayed, Jamila, veille tandis qu'elle lave du linge à l'extérieur. Controverse ou pas, la famille n'a pas enfreint la loi en choisissant de donner un nom non islamique à leur fils, souligne Rouhullah Ahmadzai, un haut responsable de l'état civil à Kaboul. Les papiers du garçon sont authentiques, a confirmé M. Amadzai à l'AFP, et ses parents ont le droit de donner le nom de leur choix à leur enfant. M. Sayed, quoique inquiet pour la sécurité de sa famille, et de Donald en particulier, n'est pas prêt à faire marche arrière. Il y a des chances qu'il soit harcelé ou battu par ses camarades d'école, admet-il, mais, dit-il, je ne changerai pas d'avis, que les gens aillent au diable.
Et si on construisait un chalet comme s'il s'agissait de blocs Lego, inspiré par les traditionnelles maisons en bois rond, deux entreprises québécoises proposent des constructions pièce sur pièce adaptées aux standards du jour. Des chalets comme des blocs Lego. Les maisons de produits Boréal sont livrées en pièces détachées dans un seul camion semi-remorque de 53 pouces. 53 pieds, pardon.
C'est plus grand. Oui, c'est mieux.
Celles de Timberblock sont acheminées en panneaux préassemblés, la plupart du temps livrées sur un seul fardier. Une fois sur le chantier, la construction se boucle en une fraction de temps habituellement nécessaire pour un bâtiment en charpente de bois. Le secret de cette efficacité réside dans la conception des billots. Les revêtements extérieurs et intérieurs en pin blanc sont collés à une généreuse couche de matière isolante, du polystyrène expansé pour produits Boréal et du polyuréthane à alvéoles fermées sous haute pression par Timberblock. Les gens nous choisissent parce que c'est plus simple et que c'est plus facile à assembler, affirme Pierre Girard, directeur des ventes de produits Boréal, de passage à Montréal à l'occasion du salon Expo Habitation. C'est conçu pour que ce soit facile pour le client. En une seule étape, on en fait 5, le revêtement extérieur, la charpente, l'isolation, le filage et la finition intérieure. Les cofondateurs de Produits Boréal, Pierre Girard et ses frères François et Patrick, ont conçu l'isolo rondin avec en tête l'autoconstruction. L'entreprise d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, propose maintenant des ateliers de formation pour les clients qui voudraient mettre la main à la pâte. Pour les moins habiles, elles offrent aussi une formule de construction clé en main. Notre clientèle a du temps à consacrer à la construction de sa maison, explique Pierre Girard. On parle surtout de ceux qui veulent un chalet relativement modeste ou ceux qui veulent construire ce qu'ils considèrent être leur dernière maison. La gamme de prix des maisons de produits Boréal varie de 35 000 $ pour une coquille de 24 pieds sur 24 à 250 000 $ pour les plus grandes maisons en fonction des produits de finition et des matériaux. À cela s'ajoute le coût de la fondation, les cloisons et la finition intérieure, de même que la main-d'œuvre. Normalement, la main-d'œuvre compte pour 50% de la facture de la construction d'une maison, explique Patrick Dumais, directeur des ventes pour l'Ouest du Québec, chez Produits Boréal. En économisant sur cet aspect, les gens peuvent se payer leurs rêves. On leur propose quelque chose de luxueux tout en diminuant les coûts. On arrive à obtenir un look et un esthétisme recherché sans les contraintes qui sont normalement associées à des constructions du même genre. Encore populaire il y a 5 ans, l'allure bois rond fait graduellement place au fini plat plus contemporain. Près de 70% de nos commandes sont dorénavant en fini plat, indique ainsi Pierre Girard. C'est davantage en phase avec la mode actuelle et les gens ont l'impression que ça ne se démode pas. Le processus d'assemblage en usine est breveté, ce qui a impliqué le développement d'une machinerie particulière en isolant spécialement avec un isolant spécialement réalisé par la multinationale BASF et une peinture conçue pour durer 15 ans. Les chalets de Timberblock s'adressent surtout à une clientèle haut de gamme, mais cela pourrait changer bientôt. Donc, et on pourrait finir une quinzaine de plans pour un marché plus abordable, autant pour les résidences secondaires que principales.
Vous connaissez sans doute le principe comique de l'arroseur arrosé. Eh bien, ça ne se démode pas et c'est décidément toujours drôle, quel que soit le domaine dans lequel il s'applique. Elle dénonce une auto trop lente et écope de $477 d'amende. Une femme de Colombie-Britannique qui a dénoncé à la police une conductrice qui ne roulait pas assez vite a écopé pour près de $500 de contravention parce que, ce faisant, elle avait elle-même violé le code de la sécurité routière. Selon le sergent d'état-major Paul Ice du détachement de la gendarmerie royale du Canada à Whistler, la femme a appelé la police en juillet dernier pour signaler que la voiture d'une école de conduite roulait sous la limite inférieure. Les enquêteurs ont toutefois mis la main sur les enregistrements des caméras de surveillance montées sur les voitures de l'école de conduite. Selon M. Ice, des images démontraient que c'était plutôt la dénonciatrice qui avait enfreint plusieurs règlements du code de la sécurité routière, notamment en prenant des photos avec son téléphone cellulaire alors qu'elle était elle-même au volant. Des documents judiciaires révèlent que Johanna Harrington a été accusée de changement de voie interdit sur une ligne continue et d'utilisation d'un appareil électronique au volant, des infractions passibles d'amende de $109 et $368 respectivement. Selon les documents, Mme Harrington soutient que l'instructeur de l'école de conduite était davantage préoccupé à narguer les autres conducteurs que de faire son travail. L'instructeur, Todd McGivern, explique qu'il enseignait à son élève, une femme dans la vingtaine, comment réagir en toute sécurité à un véhicule qui suit de trop près. Il demandait à la jeune conductrice de ralentir puis d'accélérer pour que la voiture derrière garde une distance sécuritaire, ce qui n'a pas plu à l'autre conductrice. L'instructeur soutient par ailleurs que l'accotement n'était pas assez sécuritaire à cet endroit pour se ranger et laisser passer les autres véhicules. Affaire criminelle en cours.
Un camembert québécois sacré champion du monde. Un camembert québécois a été sacré meilleur au monde lors d'un concours international d'amants, notamment le pion à deux camemberts français. L'Extra, c'est le nom du camembert, s'est imposé face à 17 autres camemberts concurrents lors du World Championship Cheese Contest de Madison dans l'état du Wisconsin aux États-Unis, selon le classement officiel sur le site du concours. L'Extra, au goût de noisettes et de champignons de la coopérative gagnante AgroPure, a été préféré par un jury international aux autres camemberts, dont Lisigny, le très réputé fromage de Normandie, une référence en la matière. Cette victoire québécoise intervient au moment où les producteurs de lait et de camembert de Normandie viennent récemment de se mettre d'accord sur une bataille d'étiquettes qui les opposait depuis 10 ans. Des camemberts danois, néo-zélandais ou américains étaient également en lice pour être sur la plus haute marche du podium mondial. 3400 fromages de 26 pays étaient en lice cette année à ce championnat mondial des fromages, présenté comme la plus grande compétition du genre au monde. C'est un fromage français au lait de brebis, l'Esquirou, du maître fromager Michel Touillaroux, installé à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a été sacré champion du monde, toute catégorie.
Je vous parlais tout à l'heure de Donald Trump, mais pas du vrai, je sens que vous êtes déçus. Me revoilà avec le vrai Donald Trump qui, heureusement, comme toujours, a fait une sortie médiatique dont il a le secret. Le président américain Donald Trump a fait savoir mardi, la semaine passée, qu'il aimerait bien créer une armée de l'espace aux côtés de l'armée de terre, de l'US Navy et de l'US Air Force, tout en faisant immédiatement douter du sérieux de sa proposition. Ma nouvelle stratégie de sécurité reconnaît que l'espace est une zone de combat, tout comme la terre, le ciel et la mer, a déclaré M. Trump au cours d'une brève visite de la base aérienne de Miramar dans la banlieue de San Diego, dans le sud de la Californie. J'en parlais l'autre jour parce que nous faisons un travail extraordinaire dans l'espace, a-t-il ajouté au cours d'un discours devant des soldats du corps des Marines. J'ai dit peut-être qu'il nous faudrait une nouvelle armée, on l'appellerait l'armée de l'espace. Je n'étais pas vraiment sérieux, mais ils m'ont dit « quelle bonne idée », a conclu le président américain en souriant. « Peut-être qu'on va le faire ». En fait, la proposition de créer une armée de l'espace date de plusieurs mois. La Chambre des représentants a même voté en juillet 2017 un texte prévoyant la création d'un corps de l'espace distinct, séparé de l'armée de l'air qui gère actuellement les activités spatiales. et c'est le ministre de la Défense lui-même, Jim Mattis, qui s'y était opposé le plus vertement. À une époque où nous essayons de rassembler les fonctions de combat du ministère, je ne souhaite pas ajouter un service séparé qui, selon toute probabilité, offrirait une approche plus étroite et même étriquée aux opérations spatiales, avait-il fait savoir aux élus dans une lettre envoyée à un parlementaire opposé à la création de cette branche. La chef de l'US Air Force, Heather Wilson, avait fait savoir qu'elle était elle aussi opposée à cette mesure qui nous ferait aller en réalité dans la mauvaise direction, nous ralentirait. L'armée américaine compte déjà 4 branches, terre, marine, air, corps expéditionnaire des Marines. Les opérations dans l'espace dépendent depuis les années 1950 de l'US Air Force, et apparemment pour voir la vraie guerre des étoiles dans la vraie vie, il faudra attendre encore un peu.
Alors, je vais faire un peu empiéter sur votre territoire, Louis.
Je vous en prie.
3 Européens expulsés du Machu Picchu pour avoir montré leurs fesses. C'est pas pour ça que je parlais de territoire, je parlais simplement de insolite.
Oui.
3 touristes européens, un Allemand, un Suisse et un Néerlandais, ont été expulsés du Machu Picchu, la célèbre forteresse Inca, dans le sud du Pérou, pour s'être photographiés en montrant leurs fesses, a annoncé mercredi la police. Les 3 touristes ont baissé leurs pantalons et se sont photographiés en montrant leur derrière, a déclaré par téléphone un policier du commissariat du Machu Picchu, Martin Flores. Il n'est pas permis de faire cela dans ces lieux, a souligné le policier. En vertu des normes internes qui sont en vigueur ici, les 3 touristes ont été expulsés du lieu, mais ils n'ont pas été arrêtés, a-t-il dit. Les 3 coupables, un Allemand de 21 ans, un Suisse de 24 ans et un Néerlandais de 26 ans, ont été expulsés mardi du site Inca, mondialement célèbre par la police et par l'administrateur du parc archéologique de l'endroit, Ronald Quispe. Les autorités péruviennes considèrent comme un délit de lèse-culture le fait de se dévêtir au Machu Picchu, une majestueuse citadelle inca du 15e siècle située à 60 km de Cusco, l'ancienne capitale de l'empire inca. En juin 2014, le ministère péruvien de la culture avait rappelé que le tourisme nudiste était interdit, après une vague de visiteurs qui se déshabillaient pour se prendre en photo dans la citadelle.
Un petit couac diplomatique à Ottawa, un drapeau allemand pour accueillir le roi des Belges. Un drapeau allemand au lieu du belge pour accueillir le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde. Cette erreur a heureusement été rapidement corrigée à Ottawa où le couple royal était en visite la semaine passée. La bévue a été commise au beau milieu du jardin de Rideau Hall, résidence de la gouverneure générale du Canada Julie Payette. 2 petits drapeaux, l'unifolié canadien et celui d'Allemagne, étaient tissés par un ruban jaune sur un érable à sucre planté il y a plus de 40 ans par la reine Fabiola de Belgique. Les drapeaux allemands et belges partagent les mêmes 3 couleurs, mais l'un a les rayures verticales et l'autre horizontales, et j'ajoute, l'article ne le précise pas, qu'elles ne sont pas dans le même ordre. Pendant que nous préparions la cérémonie, il a été porté à notre attention qu'il y avait eu un mélange avec un petit drapeau servant à identifier l'arbre planté par Sa Majesté la Reine Fabiola en 1977. Nous avons corrigé cela immédiatement, avant l'arrivée des souverains belges venus pour à leur tour planter un arbre dans le jardin. Ouf. La capitale canadienne a déployé de nombreux drapeaux belges pour l'arrivée du roi et de son épouse en calèche à la résidence de Madame Payette. Ils ont effectué une visite depuis le lundi de la semaine passée, une visite officielle d'une semaine au pays, au cours de laquelle les étapes à Toronto et Montréal étaient également prévues. Ils sont accompagnés, étaient accompagnés d'une délégation de ministres, d'entrepreneurs et d'artistes belges, pas allemands.
L'éditeur québécois Ulysse vient de lancer plusieurs nouveaux guides format poche dans sa collection Explorer. Parmi les nouveaux titres à couverture bleue, notons un guide consacré au Vermont et au lac Champlain, un autre portant sur la côte du Maine et Portland, et un troisième qui traite de Florence et de la Toscane. Tous comptent moult photos couleurs, des cartes et plusieurs adresses, à savoir plusieurs titres consacrés aux îles de la Madeleine, à Cape Cod, à Terre-Neuve ou à la Gaspésie, ont été revus et réédités récemment en format poche.
Merveilleux pour voyager avec des pages. Ce qui conclut cette émission. Merci Jean-Charles Algan pour ses articles.
Merci Louis.
Merci également à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. C'était Les Voix de Service, c'était Louis de Bernis. À la semaine prochaine, même heure pour Les Voix de Service.
Au revoir.